Alors, je propose maintenant à la salle, si quelqu'un souhaite intervenir, poser une question à la... Oui, je vois là-bas. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Si vous pouvez vous présenter et, si possible, des questions courtes, parce qu'on a une dizaine de minutes, même pas, et je voudrais peut-être en prendre plusieurs.
On m'entend ?
Merci.
Oui, ça va ? Maurice Comte, oui. Université Lumière. Je suis ravi de voir que mes collègues économistes présents ici et sur toutes les précédents débats ont laissé de côté assez largement une certaine idéologie libérale à tout craint pour se convertir désormais à la régulation. Alors simplement, moi, je passerai de l'autre côté et je leur dirai, les économistes ont aussi beaucoup écrit sur ce que faisaient les autorités de régulation. Est-ce qu'elles étaient capables de mener à bien cette tâche? Est-ce qu'elles développaient, je pense particulier aux études sur le politique, elles-mêmes des intérêts qui pouvaient contredire la bonne régulation? Donc on est dans une période, je dirais, de grand printemps des experts. On les consulte parce qu'il y a la crise. Et moi, je me pose la question derrière, est-ce que tout ça se donnera les moyens, cette régulation dont vous nous parlez, tous ces beaux objectifs, qui est-ce qui va les réaliser et en fonction de quoi?
Alors, la réponse est oui, mais quelle était... Pardon, non. On va prendre une série de questions. C'est la proposition de Cécile. Non, vous avez...
non. Bon, j'ai une autre question.
Oui, une autre question, mais on y répondra. Hein.
Enfin, le problème de la surpopulation a été juste effleuré. Pratiquement pendant les 3 jours, on n'en a pas parlé. Bon, je veux bien admettre qu'on arrivera à vivre en serrant la ceinture en 2030 à 9 milliards. Et qu'est-ce qu'on fera à 12 milliards? Qu'est-ce qu'on fera à 15 milliards? On continuera, on peut revenir à l'âge de pierre. Or, je considère, moi, qu'on devrait beaucoup plus prendre en compte ce problème de la surnatalité, qui est un problème fondamental dans la croissance.
Une troisième là-bas, et après je vous donnerai la parole. On va répondre, hein, donc gouvernance.
Oui, bonjour. Démographique. Je m'appelle Renaud Sertoir, je suis enseignant de sciences économiques et sociales. J'ai une question précise pour M. Rago, en fait. Voilà, donc la taxe carbone, nous en sciences économiques et sociales, évidemment, on le traite avec les élèves, puisque s'il y a bien une seule discipline au lycée qui permet de traiter toutes ces questions absolument essentielles, ce sont bien les sciences économiques et sociales. Voilà. Non, non. Voilà. Qui, bien évidemment, devrait être obligatoire au lycée, mais je ne doute pas que ça va être le cas dans la prochaine réforme du lycée. Et ma question est simple. Quand j'ai travaillé sur la taxe carbone avec les élèves, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des travaux sur l'élasticité prix, justement, du prix du pétrole, puisque, comme vous l'avez dit, l'augmentation de 4 centimes d'euros, finalement, ça peut a priori sembler une augmentation assez faible. Et donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, est-ce qu'il existe des travaux précis sur, justement, finalement, l'importance de la variation de la consommation liée à une petite variation du prix du pétrole? Merci.
Alors, peut-être 3 questions. Lionel Rago, la plus facile.
Je vais répondre à la première et à la deuxième.
À la première et la troisième.
Donc, je vais faire, on ne l'a pas oublié, la première question. Une réponse très générale, j'aurais tendance à dire, mais enfin, c'est une idée répandue que les économistes ont toujours dit le marché. Puis aujourd'hui, il y a la crise, donc ils disent, ah non, réguler. C'est pas vrai. Peut-être dans certains médias, c'est ce qui peut apparaître, mais pour une raison très simple, et c'est ce qu'on explique d'ailleurs quotidiennement aux étudiants, si le marché était parfait et s'autorégulait, on n'aurait pas besoin d'économistes. Si ce n'est pour dire, laissez faire le marché, c'est tout. Mais on n'aurait pas besoin des économistes. Et le rôle des économistes, c'est justement de dire qu'est-ce qu'on fait dans le cas de toutes les imperfections possibles, imaginables et extrêmement nombreuses liées au marché. Donc c'est une réponse très générale que je vous fais. Et c'est le rôle justement des économistes que de regarder ce qui se passe lorsque le marché est imparfait. Donc, voilà. La deuxième question sur la taxe carbone et l'élasticité, c'est la question cruciale que vous soulevez. Hein. C'est effectivement comment les ménages vont réagir à une augmentation une augmentation du prix. Alors il y a des études qui sont faites, c'est pas facile à mesurer. L'INSEE a fait pas mal de travaux sur l'élasticité de la consommation au prix des carburants. Bon, généralement, pour faire très simple, on se rend compte qu'il y a une élasticité de court terme, mais il y a une élasticité de plus long terme, moyen long terme. À court terme, si vous avez un petit choc, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et on l'a très bien vu d'ailleurs aux États-Unis avec le dernier choc pétrolier de 2008, où il a fallu attendre qu'une augmentation très très forte hein, du gallon a été multipliée par 4, hein, on a vu, et c'était avant la crise, hein, bien avant la crise, on a vu une baisse sensible de la consommation en carburant des Américains. Donc il y a un effet de court terme, mais à condition qu'il y ait une hausse très très importante, ce qui explique d'ailleurs que oui, les économistes ne préconisaient pas 17 euros, hein, mais étaient plutôt sur 32. Et dans le rapport Kinet, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, hein, d'ailleurs, et même plus, puisque le rapport Kinet était sur la base de 32, mais certains préconisaient plutôt commencer à 45. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi l'élasticité de long terme est différente? C'est parce qu'aussi, eh bien, un moyen de réduire sa consommation, bon, instantanément, c'est on va moins utiliser son véhicule. L'autre moyen, c'est au moment où on va changer de véhicule, on va prendre un véhicule qui consomme moins, et à travers des incitations, d'ailleurs, le bonus, malus et autres. Donc à court terme, c'est en réduisant, en allant moins souvent à la pompe, c'est plus compliqué, mais quand l'impact est important, ça se retrouve. Et à moyen long terme, c'est au niveau de l'investissement en automobile ou sur le chauffage. Hein, vous passez au gaz qui consomme moins, etc.
Cécile Joly.
Oui, alors sur la conversion à la régulation des experts, que tout le monde effectivement a constaté, en même temps, il faut bien concevoir que la régulation, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça, et que dans la crise financière que nous avons pu observer tous, ce qui s'est produit quand même très largement, c'est que le marché lui-même est sorti de la régulation. Hein. Donc c'est bien parce que on a eu c'est bien parce qu'on a eu des institutions financières qui ont réussi à se faufiler dans les marges et qui n'étaient pas contraintes par la régulation financière des États-Unis ou de l'Europe que on a eu une crise financière de cette ampleur. Donc la régulation n'est pas une chose nouvelle, mais ce qui est difficile aujourd'hui dans la régulation, c'est qu'elle est compliquée à mettre en place. Les politiques publiques, donc on sait pertinemment qu'on n'a pas toujours une influence sur les comportements de consommateurs, on l'a vu selon le niveau de la taxe, etc. Mais sur les entreprises aussi, je veux dire, on a une difficulté à adapter la réglementation. Et quand vous faites une réglementation, vous pouvez être sûr qu'elle va être contournée. Donc effectivement, il faut aussi qu'il y ait une acceptation. Donc c'est pas quelque chose, je pense, de si simple qu'être pour ou contre la régulation. Sur la surpopulation, la difficulté est beaucoup moins le fait qu'on soit plus nombreux. C'est qu'on soit sur une planète qui est plus fragile. Hein, le grand miracle de la révolution industrielle, c'est de nous avoir permis de croître en nombre sans avoir périodiquement des cycles de pandémie, de misère, etc. Au fur et à mesure qu'on augmentait notre revenu, on était plus nombreux, on n'avait pas assez de terres, et effectivement, on développait ce qu'on a connu en Europe et dans plein d'autres pays. Donc la difficulté n'est pas la surpopulation, et même la population est une chance. Aujourd'hui, la croissance, on le dit, elle est de plus en plus immatérielle, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le capital humain et sur le génie humain, parce que si on veut sauver le monde, c'est sûr que il y a la face cachée, il y a le Dark Vador dans l'homme, mais il y a aussi son génie, et on compte sur son génie et sur ses inventions et ses innovations, y compris environnementales, qu'on a vues, et pour pouvoir continuer justement à être aussi nombreux. Et puis il y a quand même quelque chose qui est un espoir, qui est la transition démographique, qui certes n'est pas généralisée partout dans le monde, mais il faut bien voir qu'on est quand même en Chine entré très 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 largement dans la transition démographique. Dans beaucoup de pays du monde, vous avez un mimétisme démographique qui est plutôt avec un moindre nombre d'enfants par femme, et aussi parce qu'on veut éduquer ses enfants, parce que l'avenir pour eux, c'est la qualification, et que donc cette chose-là n'est pas, cette tendance-là n'est pas une tendance à la surpopulation, et la tendance à la protection sociale n'est pas non plus une tendance à la surpopulation.
Malheureusement, il ne nous reste plus que 5 minutes, et on vient de me rappeler à l'ordre parce que la matinée est très chargée. Alors, je voudrais quand même vous laisser à chacun la possibilité, en une minute, de répondre ou de dire une dernière chose, de répondre à une dernière question que je vous pose à chacun, et vous y répondrez comme vous le voudrez. Est-ce que vous pensez qu'on serait aujourd'hui aux États-Unis, on aurait ce débat-là? Est-ce que vous pensez que les Américains s'interrogent sur cette question vers un nouveau modèle de développement? Est-ce que vous pensez qu'en Chine, vers un nouvel modèle de croissance, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'en Chine, on s'interroge sur cette question-là? C'est quand même les deux grands pôles de puissance économique dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on s'interroge sur ces questions-là? Voilà, et j'aurais voulu vous permettre de conclure sur cette question ou sur une autre, si vous le souhaitez. Bettina Laville.
C'est le type de question qu'on aurait adoré connaître avant. Bon, moi je vais quand même dire un mot, mais alors vraiment très rapidement, parce que sur la régulation, parce qu'on n'y a pas répondu, c'est voilà. Je pense qu'il y a trois choses. D'ailleurs, c'est pas complètement compatible avec votre question. Il y a régulation et autorité de régulation. C'est très différent. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'économie ait en son propre sein une espèce d'autorégulation globale. On l'a confié au marché pendant très longtemps, on voit que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, finalement, qui régule ? Eh bien, c'est les gendarmes. Le FMI, qui n'est pas vraiment une autorité de régulation, a régulé, je veux dire, a donné quelques bases. Bon, qui régule ? Ce n'est plus vraiment les États-Unis, mais c'est beaucoup les États-Unis et on est au sommet en ce moment Chine-États-Unis. On voit bien qu'on attend une régulation par l'hyperpuissance, comme disait Védrine. Hein. Et ça, comme dit toujours Védrine, d'ailleurs. Et il est absolument évident que là, on a une mauvaise régulation. C'est pour ça qu'il faut des autorités de régulation. Et des autorités de régulation, il faut qu'elles soient dotées de pouvoir. Et par exemple, en matière environnementale, la plus grande autorité de régulation, c'est celle qui va concilier la concurrence et la protection de l'environnement. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, elle est bloquée dans le cycle de Doha, c'est l'OMC. Moi, je dis toujours que tout le monde appelle, et moi aussi, de mes voeux, l'autorisation, l'Organisation mondiale de l'environnement, etc. La marche de l'OMC serait beaucoup plus efficace, y compris dans les problèmes d'environnement, parce que qu'est-ce que c'est le problème d'environnement ? Aujourd'hui, la résolution du problème d'environnement, c'est que les chefs d'entreprise veulent bien accepter toutes les normes, mais en même temps, le marché est inondé de produits qu'ils ne les respectent pas et qui donc sont moins chers. Il faut, je veux dire, c'est une réalité. Donc je pense qu'il faut réfléchir à plus d'autorité dans la régulation, effectivement, sauf qu'il y a ce grand problème que beaucoup de gens disent, que ces autorités de régulation sont hors de la démocratie parce qu'elles sont nommées et elles ne sont pas, finalement, c'est pas comme les parlements, etc. Donc là aussi, il y a un problème de démocratie. Alors, est-ce qu'on parlerait de ça en Chine, etc. Eh bien, la réponse, elle est oui. On ne poserait pas les choses de la même manière. Mais il y a eu des mouvements quand même très, très importants de révolte aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un immense mouvement en ce moment d'interrogation, non pas sur la décroissance, bien entendu, mais sur le mode de développement que doit adopter l'Afrique et les alliés que l'Afrique doit se choisir pour arriver à un développement. Et en Chine, il y a bien entendu une foi, vous l'avez rappelé, dans les nouveaux investissements écologiques, etc. Mais il y a aussi quelque chose, il y a une interrogation, non pas sur le mode de développement, mais sur l'instrument politique qui va arriver à faire que les Chinois arrivent à concilier le développement économique qu'ils souhaitent et en même temps la protection en particulier de l'environnement. Et c'est Hubert Védrine aussi, vous savez, qui dit que pour lui, les problèmes d'environnement, le poids des problèmes d'environnement dans le monde a vraiment un autre sujet, c'est est-ce qu'on va arriver à conserver la démocratie ou est-ce qu'il y aura à un moment donné de crise importante, une dictature environnementale. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de conserver tout ça dans la démocratie.
Lionel Rago, pardon.
Oui. Concernant la Chine, un mot supplémentaire et plus général, c'est-à-dire le problème du réchauffement climatique, on voit les coûts, hein, il commence à être de mieux en mieux mesuré les coûts économiques hein, pour éviter le réchauffement climatique. Par contre, les bénéfices, c'est moins de CO2, enfin moins de gaz à effet de serre, c'est peu tangible. C'est les experts qui vont vous dire qu'il y en a moins, mais on ne va pas le vivre, il n'y a pas de vécu par rapport à ça. De vécu. Pour l'instant, hein. C'est pas vraiment le cas en Chine. Et c'est pour ça que la position chinoise actuellement, Il y a une prise de conscience en Chine du problème du réchauffement climatique parce qu'ils commencent à en percevoir les effets, des problèmes de désertification qui s'accroissent fortement et qui posent des problèmes de transfert de population. Et donc les autorités chinoises sont conscientes que si on ne fait rien, ça peut causer des problèmes internes très très importants. Et donc aujourd'hui, pour Copenhague, alors ne faisons pas d'illusions, hein, mais ils viennent avec une position plutôt conciliante au sens où ils ont pris conscience du problème. Après, sur les modalités, sur les objectifs, sur le sentier, etc., c'est différent. Et donc, je terminerai juste un point. Il y a un autre, on parle de pollution plus généralement, il y a une autre forme de pollution où on vous a demandé de contribuer financièrement pour le résoudre, c'est la qualité de l'eau. Hein, si vous regardez votre facture d'eau depuis une dizaine d'années, elle a fortement, fortement augmenté. Alors c'est vrai que c'est une part du budget plus restreinte, et sans qu'on parle de compensation, parce que ben, vous, cette qualité de l'eau, vous la constatez quotidiennement en buvant l'eau du robinet. Et donc vous étiez prêt à accepter en partie ce coût supplémentaire. Le réchauffement climatique, on ne le perçoit pas quotidiennement.
Henri Rouillot.
Merci de votre question. Est-ce qu'on s'interroge ailleurs qu'ici en France et Lyon aujourd'hui? Moi, ça me paraît très très clair qu'il y a un débat à travers le monde, qui est un débat tout à fait fondamental sur où on va. L'élection américaine a été un événement tout à fait majeur. Et derrière l'élection américaine et ce qu'Obama aujourd'hui essaye de mettre en œuvre avec des difficultés, parce que dire qu'il y a débat ne veut pas dire qu'on est passé d'une position à une autre position sans... Les contradictions, elles sont toujours très présentes. Mais le changement de la position américaine sur les questions de l'environnement, le changement de la position de l'administration américaine sur les questions de l'assurance maladie, avec universelle, avec tous les débats que ça provoque, puisque il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, à commencer par le Congrès et ces deux chambres, et donc le processus n'est pas encore abouti. Le changement qu'il y a également aux États-Unis sur la place de la question sociale, par exemple, avec la volonté d'Obama de faire en sorte qu'on inverse la tendance à la désyndicalisation aux États-Unis. Et là-dessus, il y a eu des annonces très fortes qui ont été faites. Donc, il y a un débat aux États-Unis qui est tout à fait considérable. En Chine, le débat se voit moins, bien entendu, puisqu'on a cette situation extrêmement importante d'un développement capitaliste très fort à l'intérieur d'une avec une société civile qui émerge doucement, mais en même temps avec un autoritarisme politique et un système de parti unique. Mais en Chine, il y a un débat très fort sur des questions comme l'assurance chômage, comme l'assurance maladie, etc. Juste avant que la crise n'éclate, ils avaient des débats, et ils les ont toujours aujourd'hui là-dessus, et ça se met en place plutôt dans un certain nombre de provinces, plutôt dans un certain nombre de villes, une des difficultés étant qu'il y a des écarts de niveau de vie considérables entre les gens de Shanghai et les gens des provinces les plus reculées. Bon, il me semble que l'avenir sera ce que les acteurs en feront. Et il y a une interrogation et des débats tout à fait fondamentaux sur le plan idéologique et politique.
Cécile Joly, pour conclure.
Oui, alors je ne vais pas revenir sur la vigueur du débat de par le monde. Simplement, je voudrais quand même bien mettre en valeur que les pays dont on parle, donc c'est effectivement ceux qui vont faire le monde demain, ce sont les pays émergents, ce sont les anciens pays de la triade. Mais il y a des pays qui sont plus sur le bord de la route et qui participent quand même infiniment moins à ces débats. Et je pense que la semaine prochaine, j'irai à Tunis à une conférence sur l'emploi et que les questions ne seront pas de même nature et qu'elles seront beaucoup plus pragmatiques sur le chômage des jeunes et des diplômés et sur des questions qui tiennent moins aux technologies environnementales, même si on en parlera parce qu'on a un plan solaire méditerranéen. Mais que quand même, et que si j'allais à Nouakchott, ou que ce serait encore différent et ce serait peut-être encore plus terre à terre.
Bien, eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est difficile de conclure. J'ai entendu que la croissance demain serait jaune, elle viendrait d'Asie, qu'elle serait blanche, les secteurs liés au vieillissement, qu'elle serait peut-être verte aussi, surtout verte, donc elle sera en tout cas multicolore. C'est la conclusion que j'en tire avant de passer au débat sur Copenhague, dont on a déjà esquissé un peu les termes. Merci aux participants et merci au public.